Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne, Sabine Marin.
Sur cette libre antenne du samedi soir, nous avons 2 heures de liberté devant nous pour nous parler de tout, pour échanger sur la vie, les bonheurs, les malheurs. Alors ne restez pas seul ce soir, appelez le 3921 et venez prendre la parole. Quel que soit le sujet que vous avez envie d'aborder, osez le faire. Depuis que le langage existe, nous savons que la parole est libératrice. Elle nous aide à préciser notre pensée, à faire le point sur nos sentiments profonds et à exprimer tout cela aux gens qui nous entourent. Dans notre pays où on est censé pouvoir tout se dire, on devrait donc en profiter et multiplier les occasions de dialoguer. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Trop souvent, la peur de blesser, la peur de paraître idiot nous inhibe. Nous voudrions trouver les mots, mais ceci nous échappe. Nous aimerions dénouer un conflit, éclaircir une situation trouble, et c'est le non-dit qui s'installe. Dépasser nos silences est pourtant le plus beau défi qui nous revient quand nous sentons que l'énergie de vivre et le désir s'endorment. Osons. Et osez donc prendre la parole, celle-ci va toujours dans le sens de la vie. Amandine et Hassan sont prêts à vous accueillir au Standard Europe 1, le 3921. Pour réagir et participer par SMS tout au long de l'émission, vous faites le 7-39-21 en commençant bien par le mot nuit. Nous pouvons aussi entrer en contact par mail à l'adresse suivante, libreantenne en un seul mot, @europe1.fr. Voilà, vous saurez tout quand je vous aurai dit qu'à la réalisation ce soir, j'ai le plaisir de retrouver Andreas Papadian. Tout le monde est prêt pour le top départ? Alors la libre antenne, ça commence maintenant.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et on va commencer cette libre antenne ce soir avec Catherine qui va nous parler de ses problèmes de sommeil. A tout de suite.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Et on commence donc cette libre antenne du samedi soir avec vous, Catherine. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, racontez-moi un petit peu. Vous ne dormez pas, donc là?
Alors, non, je ne dors pas. Très bizarrement, je commence à m'endormir quand on m'a rappelé.
Oui, ça, c'est un grand classique, ça. C'est toujours ça.
Non, c'est-à-dire que j'ai pas. Enfin, j'ai problème de sommeil peut-être dû à l'âge également, parce que bon, j'ai quand même 68 ans. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis quand même un certain nombre de mois, je dirais même d'années, je m'endors. Alors bon, je suis quelqu'un d'assez actif, hein, et j'ai arrêté de travailler en juin de l'année dernière, pour tout vous dire. Donc j'ai travaillé jusqu'à 67 ans,
oui.
Et par choix, hein. Ce qui m'a fait arrêter, c'est parce que bon, j'ai des problèmes de jambes et je peux plus marcher vraiment correctement. Donc voilà, j'ai choisi de m'arrêter parce que j'avais pas le choix en fait. Donc le problème, c'est que je m'endors et je m'endors assez facilement en principe. Et puis 1h30, 2 heures après, c'est terminé. Je me réveille, il suffit que j'ai envie d'aller aux toilettes, faire un petit pipi ou voilà, et je me recouche et c'est fini. J'ai plus envie de dormir. Alors bon, le problème, c'est que je dors plus. Alors après, je dors plus jusqu'à 2-3 heures du matin. Alors j'écoute Libre Antenne, j'écoute les podcasts de Libre Antenne, j'écoute, je regarde un film, j'essaie, bon. Alors, à un moment donné, j'avais essayé d'écouter de la musique douce pour essayer de déconnecter, en fait,
de vos pensées,
de mes pensées.
Mais la musique suffit pas forcément.
Comment?
La musique ne suffit pas forcément à déconnecter.
Ah ben non, ça, je m'en suis rendu compte.
Oui.
Ça marche une fois sur deux. Et puis des fois, voilà, on écoute un truc et puis on se dit, eh ben tiens, je vais aussi écouter ci ou ça. Et puis, en fin de compte, ça ça enlève pas, enfin ça n'arrange pas les choses en fait. Mmh. Et j'ai une amie qui elle a eu des séances d'hypnose et qui m'avait dit écoute c'est vraiment très bien. Mmh. Et son amie a arrêté de fumer en faisant des séances d'hypnose par des vidéos qu'il y a sur YouTube.
Oui.
Et apparemment, ça a marché. Mmh. Alors, il y a quelques jours, j'ai dit, tiens, bah, après tout, pourquoi pas. Donc, je suis allée sur Internet. Alors, j'avais déjà essayé une fois et j'étais tombée sur un psychothérapeute, c'était un homme. Et en fait, sa voix m'agaçait plus qu'autre chose et c'était pire que tout.
Oui.
Bon, j'ai dit, laisse tomber.
Le problème, c'est qu'il y a à boire et à manger hein, sur Internet.
Voilà. C'est ça le problème. Alors, et là, j'ai trouvé des vidéos d'une psychothérapeute clinicienne. Enfin, en tout cas, c'est apparemment ce qu'elle est. Parce que j'ai quand même été voir après sur Google.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. La première chose à faire dans ces cas-là, c'est quand même de vérifier qui propose ces enregistrements. Parce qu'il y a tout et n'importe quoi hein, sur
Internet.
Alors,
c'est Sandrine Belmont, elle s'appelle.
Non, alors là, on est surtout pas.
Pardon.
Surtout pas, ni vous ni moi, là.
Excusez-moi.
On ne peut pas sur l'antenne, ça c'est...
Bon, excusez-moi. Alors bon, enfin bref, j'ai été voir, apparemment, effectivement, elle est psychothérapeute clinicienne et elle fait des séances d'hypnose. Et donc, j'ai écouté ces vidéos, une vidéo pour un endormissement rapide et efficace quoi. Et en fait, ça a marché. Ça a très bien marché, même j'ai très bien dormi. Mais le problème c'est que. Par exemple, hier, ma fille est arrivée. Elle est arrivée de son travail. Parce qu'en plus, bon, j'ai pris ma retraite l'année dernière. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée ailleurs. C'est-à-dire que j'ai arrêté de travailler le vendredi. Le samedi, j'ai déménagé.
Ah oui, donc c'est un double deuil, là, à faire. Hein. Eh oui.
Ouais. Eh oui. Alors, bon, je l'ai très bien vécu, hein, parce que je m'y étais vraiment préparée. Hein. Mmh. J'ai quand même fait... une psychothérapie pour d'autres raisons, il y a longtemps, hein, il y a quelques années, et j'ai fait une thérapie assez complète, et je sais quand même assez bien me gérer, et quand j'ai décidé que j'allais arrêter de travailler, je savais qu'il fallait que je déménage de toute façon. Mmh. C'était bien clair dans ma tête, donc je me suis organisée...
Faire un tiers groupé pour prendre un nouveau départ, quoi.
Ah oui, non, mais de toute façon, j'avais pas le choix. Hein. Oui. C'était comme ça, si vous voulez, j'étais sur la région parisienne et du jour au lendemain, j'allais me retrouver avec la moitié de ce que je gagnais et avec un loyer exorbitant. Oui. Donc, j'ai dit là, c'est pas possible, je vais très vite me retrouver dans les ennuis. Et puis, je voulais rejoindre ma fille. Donc, je me suis organisée en 6 mois. J'ai tout préparé, c'est-à-dire que je travaillais et en même temps, j'ai tout fait en même temps. Donc, je suis arrivée le vendredi soir, j'avais fini de travailler. Le samedi matin, je déménageais et le samedi soir, j'étais ailleurs. Ça a été assez violent.
C'était un tourbillon, oui, j'imagine.
Ah oui, ça a été, pendant 6 mois, j'ai commencé à faire mon déménagement en janvier, enfin, à préparer mon déménagement en janvier. Et en juin, je suis partie.
Et en même temps, est-ce que c'est pas une bonne idée aussi pour ne pas s'arrêter du jour au lendemain et ne pas couler ? Parce que beaucoup de gens qui s'arrêtent de travailler ont du mal à passer cette étape-là. Le fait d'être occupé comme ça, d'avoir ce projet-là, ça vous a maintenu debout aussi, j'imagine ?
Ah oui, ça m'a maintenu debout. Et puis, alors ça m'a maintenu debout, mais par contre, effectivement, il y a des personnes bienveillantes. Ils m'ont dit attention, fais attention parce que tu vas changer de lieu vraiment. C'est-à-dire que je me suis retrouvée d'un appartement, je me suis retrouvée dans une maison. Alors je savais où était, je connaissais les repères dont j'avais besoin. Et j'ai en 15 jours de temps, ma maison a été installée.
Vous avez besoin de recréer vite un cocon, j'imagine.
Ah, j'ai recréé mon cocon immédiatement. Ouais. Ma fille me disait, mais attends, t'as tout le temps. Je dis, non, j'ai pas le temps. J'ai besoin. Moi, j'ai besoin d'avoir les photos là. Mes peintures, je peins. Donc, il faut que mes peintures soient là. Il faut que. Et vraiment, je me suis arrangée pour que dans cette maison que j'ai emménagée, qui est très bien, hein, je suis très heureuse où je suis, hein, y a aucun problème là-dessus. Je m'y suis très vite adaptée, mais c'est vrai que j'ai fait tout ça pratiquement toute seule en 6 mois, et j'ai été épuisée.
Oui.
J'ai été épuisée, et puis en même temps, il a fallu que je retrouve aussi ma fille, que j'avais pas vue, que je voyais... puisque j'étais venue la voir plusieurs fois là où elle habitait et l'endroit me plaît, hein, y a aucun problème, mais j'étais venue la voir, mais on s'était pas revus, et en fait on s'était pas revus autrement, pas parlé au téléphone, mais on voit pas, quand on se parle au téléphone on se dit pas tout vraiment, puis elle a sa vie d'adulte, elle a, voilà quoi, et quand je l'ai retrouvée, j'ai retrouvé quelqu'un d'autre en fait. J'ai retrouvé une personne beaucoup plus adulte, responsable. Alors, de ce côté-là, j'étais très contente.
Oui, ça, c'est plutôt positif.
Ça, c'était plutôt positif, mais en même temps, quelqu'un d'extrêmement anxieux, parce que elle change d'orientation professionnelle. D'ailleurs, j'avais eu, il n'y a pas très longtemps, Sophie Peters à ce propos, parce qu'elle a eu des petits soucis à ce sujet, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet, et elle m'avait très très bien conseillé d'ailleurs, parce que ma fille ne voulait pas l'appeler, je lui ai dit, écoute, je vais l'appeler, parce que t'es tellement anxieuse, moi je sais plus comment gérer les choses, je peux pas être ta psychologue, alors je vais essayer de trouver des réponses, et puis je te ferai écouter la conversation que j'aurais eue, et si j'arrive à avoir Sophie Peters, et à ce moment-là, tu verras. Bon, donc ça s'était arrangé, hein. Mais bon, par exemple, je vous dis, hier soir elle est arrivée, elle était, c'était une bombe, hein, elle était sur les nerfs parce que avec son employeur ça s'était pas très très bien passé. Moi, à 2h du matin, je dormais pas. Hein.
Et oui. Alors, vos problèmes de sommeil, ça fait combien de temps? Est-ce que c'est juste récent ou ça fait des années que vous avez du mal à faire des nuits d'une traite?
Oh, ça fait quand même plusieurs années. Hein.
Est-ce que vous seriez situé à peu près quand est-ce que ça a commencé à se dégrader?
Ça s'est dégradé petit à petit. Je crois que c'est... ça s'est dégradé parce que... parce que je voulais y arriver, enfin je voulais que tout marche bien chez moi, je suis assez...
Voilà. Et oui, dans le contrôle.
Ah oui, je suis assez dans le contrôle, oui.
Et oui, j'entends ça, et c'est pour ça que, je vais en revenir aux vidéos d'hypnose sur Internet, c'est pour ça que ça me pose un problème, c'est que c'est très intéressant de s'attaquer à la conséquence, et ça peut marcher. Je dors pas, j'écoute un truc, je m'endors, sauf que la cause, elle est toujours là. Et vous savez, c'est comme si vous me disiez, j'ai une mauvaise herbe dans mon jardin. Oh, allez, je suis content, je vais prendre un ciseau, puis je vais couper la mauvaise herbe. Ouais, mais il y a la racine qui est là.
Ouais.
Et forcément, tous les problèmes que nous avons sont les conséquences de quelque chose. Et ne travailler que sur la conséquence, ça ne va pas bien loin. Alors, des vidéos pour vous endormir, très bien, si ça vous aide un petit moment. Mais le vrai souci, il n'est pas là. Le vrai souci, il est dans une angoisse interne et dans un problème de contrôle, parce que dans l'inconscient, s'endormir, c'est perdre le contrôle. Et
ouais.
La majorité des gens ne veulent pas s'endormir ou qui se réveillent très rapidement sont dans une impossibilité de lâcher prise vraiment. Et c'est sur ça qu'il faut travailler bien, bien avant de travailler sur le sommeil.
Ça va pas être facile parce que le problème, le problème essentiel pour moi, c'est vraiment ma fille, quoi.
Et voilà, donc ça c'est une cause et pas une conséquence. Maintenant pour parler, on y reviendra si vous voulez, parce que j'entends bien que c'est quelque chose d'important, pour parler simplement techniquement du sommeil, je vais vous redire quelque chose que j'ai déjà expliqué à l'antenne plusieurs fois.
Ouais.
Nous fonctionnons tous par cycle de 90 minutes, jour et nuit.
Uh-huh.
Tous, on vient au monde comme ça. C'est-à-dire que toutes les 90 minutes, on a ce qu'on appelle un petit down. D'ailleurs, quand on y fait attention, quand on y prête attention pendant la journée, c'est là où on s'étire, on a les paupières un peu lourdes, on a tendance peut-être à faire 2-3 pas, boire un verre d'eau, des petits moments où, voilà, c'est la fin du cycle. Ce qui veut dire que la nuit, c'est pareil. Chaque cycle, je compare ça à un train à la nuit, chaque cycle dure 1h30. Et ouais. C'est pas pour rien que quand vous vous endormez, vous me disiez tout à l'heure, je me réveille 1h30 après.
Ah bah à peu près, oui.
Oui, mais c'est complètement logique. Donc la première chose à apprendre, c'est connaître nos cycles. C'est-à-dire noter tous les soirs à quel moment vous commencez à avoir les yeux qui piquent et à quel moment vous vous endormez. Et vous allez c'est en vous écoutant, c'est-à-dire en vous endormant vraiment au moment où vous avez sommeil. C'est la première chose. Vous notez ça. Vous notez ça sur une semaine. Et vous allez vous rendre compte que très rapidement, vous connaissez vos cycles. Que c'est toujours aux mêmes heures.
Ouais.
Par exemple, mettons, à quelle heure vous vous endormez, par exemple, généralement, quand vous êtes libre de le faire, quand vous avez sommeil, sans contrainte?
Oh, vers 22h30, 23h.
Ok, donc c'est pas tout à fait la même chose. Notez vraiment à quel moment les paupières se ferment.
Ah d'accord.
Pendant quelques jours, parce qu'une demi-heure, c'est beaucoup trop large comme battant. Mettons que c'est 23h votre cycle. Vous allez vous rendre compte que, comme par hasard, vous ouvrez un œil à minuit et demi, à peu près.
Oui, c'est ça.
À minuit et demi, donc voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont comme des trains. Ce qu'il faut, la première chose à information à connaître, c'est que quand le train part, on a 7 minutes pour monter dedans. C'est une métaphore, mais ça vous explique que quand on sait, par exemple, imaginez que vous savez que votre train part à 23h. Mm-hmm. Puis vous êtes au téléphone, il y a un film qui n'est pas terminé, vous dites, c'est pas grave, dans 10 minutes, je suis au lit. Non, ça marche pas comme ça. Si vous avez raté le départ du train, vous ne vous endormez plus.
Oui, c'est ça, voilà.
Et là, vous allez regarder le plafond, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Moins je m'endors, plus je m'énerve, moins je m'endors, et c'est foutu pour 1h30.
Ouais.
Donc dans ces cas-là, quand on connaît son cycle, on s'organise pour être au lit et pour monter dans le train au bon moment. Ou alors, si on l'a raté, on fait autre chose pendant 1h30. On en profite pour bouquiner, pour regarder une série, pour faire ce qu'on a envie de faire, et on prend le train d'après.
D'accord.
De la même manière, il est normal d'avoir un réveil plus ou moins conscient toutes les 90 minutes. La plupart du temps, quand on est calme et apaisé, il n'est pas conscient. Mais ce sont souvent des gens qui vous disent « Tiens, c'est marrant, une mouche s'est posée, ça m'a réveillée. » Alors qu'une demi-heure avant, un éléphant serait passé dans la chambre, on ne l'aurait pas entendu.
Parce que
notre cerveau est en onde proche du réveil, au bout de 90 minutes, il remonte. Donc on est plus sensible à tout ce qui peut se passer. Mais normalement, quand il n'y a pas d'angoisse, de stress, on replonge pour un deuxième cycle. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que dans le premier cycle de sommeil, sur 1h30, il y a pratiquement une bonne grosseur de sommeil profond et réparateur. Dans le deuxième cycle de sommeil, il n'y a plus que 40 à 45 minutes. Dans le troisième cycle, il n'y a plus que 20 minutes. Dans le quatrième cycle, il ne reste quasiment plus rien. On va dire 5 à 10 minutes. Autant vous dire que quand on a dormi 4 fois 1h30, c'est-à-dire 6 heures, ça suffit vraiment. Pour récupérer, à condition que le sommeil soit profond et bien calé sur les bons rythmes.
Oui, c'est ça, voilà.
Donc quelquefois, on a la croyance. Moi, la première, avant de comprendre mon cycle, je disais, oh là là, j'ai besoin de 10 heures de sommeil, je suis une vraie marmotte. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est l'éducation qu'on a reçue qui nous fait croire ça. Quand on a un bon sommeil et qu'on arrive à se caler sur son rythme, 6 heures, ça suffit vraiment pour être bien. Surtout à nos âges. Je vous parle pas pour quand on est jeune et que le cerveau se construit. Quand on est étudiant, on a besoin de plus de sommeil, c'est autre chose. De la même manière, quand vous comprenez votre cycle et que vous vous dites « Ok, j'ai compris que mon train part à 23h », vous comprendrez que vous ne pouvez pas descendre du train à n'importe quel moment. Ça vous est déjà sans doute arrivé de vous réveiller une demi-heure avant le réveil, puis de vous dire « Oh, allez, il me reste une demi-heure, je me rendors.
»
Et puis en fait, vous êtes super mal quand le réveil sonne, complètement dans le pâté.
Oui,
parce qu'en fait, vous êtes remonté dans un nouveau train et vous êtes tombé du train.
C'est ça.
Donc il faut calculer quand on se couche un nombre de cycles qui arrive pile à la fin, c'est-à-dire à chaque fois en fonction d'une heure et demie, plus une heure et demie, plus une heure et demie, etc. etc. Et mieux vaut mettre le... Si par exemple votre train s'arrête, on va calculer ensemble. Le vôtre, s'il part à 23h, on dit que minuit et demi, c'est un premier arrêt. Minuit et demi, ça nous amène à 2h. 2h, ça fait 3h30. 3h30, ça fait 5h. Donc c'est 5h ou 6h30.
Oui.
Et quelquefois, les gens me disent, mais moi, mon réveil, c'est 7h. Oui. Mais si votre train s'arrête à 6h30, mieux vaut se réveiller à 6h30 et être en forme que tomber du train à 7h et être fatigué toute la journée. Ce n'est pas une question de durée de sommeil, c'est une question de se connaître soi-même, connaître ses rythmes.
Oui, voilà, c'est ça. Oui.
Et vous savez que dans les pays asiatiques, ils fonctionnent comme ça. Jamais on ne met un enfant au lit à la crèche en lui disant « il est 14h, dors, ferme tes yeux et dors ». Non, on le met au lit quand c'est son cycle. Ça évite de créer des générations d'insomniaques, soit dit en passant. Ça, c'est techniquement, je parle du sommeil d'une manière technique, ça, c'est important de connaître comment on fonctionne. Et ouais. Au pire, vous voyez, quand vous me dites, bon, bah, je me réveille et c'est fini, si vous n'arrivez pas à vous redormir, moi, ce que je conseille souvent dans ces cas-là, c'est de profiter de ces 90 minutes pour aller faire autre chose, ne pas essayer. Parce que vous savez comme moi que quand on essaye, on passe une heure et demie à regarder le plafond, à s'énerver, à regarder l'heure, à cogiter. De manière générale, on ne cogite pas sur des trucs sympas.
Oui, en principe, ça se passe pas bien.
C'est rarement là qu'on se raconte des jolies histoires, on a plutôt tendance à voir les choses un petit peu en noir.
Ouais.
Et donc, mieux vaut dans ces cas-là rallumer, prendre un livre, faire une activité qui nous convient, qui nous plaît, et repartir dans le train suivant. On a beaucoup plus de chances de se rendormir et d'être mieux le lendemain matin.
C'est-à-dire ce que vous êtes en train de m'expliquer, en fait. Parce que c'est pas la première fois hein, que j'ai des problèmes de sommeil. Il y a une trentaine d'années, quand j'ai divorcé, je me suis donc retrouvée seule. J'avais un enfant, mais enfin bon, j'étais seule. Et j'arrivais pas à dormir. J'ai eu une grande période où je ne dormais pas du tout. Pratiquement pas. Mmh. Je dormais 3 heures, 4 heures par nuit, pas plus. Et en fait, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à peindre. Parce que je me suis dit, bon, ben, rester dans mon lit, c'est pas possible. J'arrivais pas à me concentrer sur un bouquin. Et j'ai dit, ben, je vais peindre.
Oui.
Et je me suis mis à peindre comme ça.
Ben, c'est très bien.
Et alors, je peignais, je me mettais à peindre jusqu'à... Alors, ça dépendait des soirs. Il y a des soirs où je peignais... 2 heures, 3 heures. Alors, effectivement, comme mon cycle, c'est à peu près ça. Hein, je m'endors vers 23 heures. Ça doit être un peu. Bon, je vous ai dit 22h30, 23 heures, mais vous voyez, c'est à peu près ce.
Oui,
alors, je me mettais à peindre. Mm-hmm. Et puis, quand je sentais que vraiment c'était le moment,
ben voilà,
je me couchais.
Mais
et
ça veut dire que vous l'avez fait instinctivement.
Oui, je l'ai fait instinctivement.
Deuxième chose importante, ce qu'on se dit à soi-même est très important. Si je me réveille à 1h du matin et que je me dis « Oh là 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 là, mais c'est dramatique, mais ça y est, c'est foutu, ma journée est foutue » et que je me mets en boucle comme ça,
ouais.
Ça ne va pas aller du tout. Si ça, je me dis « Ah, bon, ok, bah, je suis réveillée, visiblement, je n'ai pas envie de monter dans le prochain train, eh bien chouette, j'ai 90 minutes devant moi pour aller finir un bouquin que j'aime, peindre, caresser mon chien, ou même les champs qui ont en été, si on peut se mettre dans le jardin à la fraîche, se poser, simplement, faire quelque chose qu'on aime, juste ça,
ouais,
sans
ouais.
Se monter
c'est
la tête. Et bien, croyez-moi, quand on y retourne 1h30 après, on est bien et on
se
s'endort.
Détendre,
exactement.
Ouais. Ouais,
alors que
détendre.
Si pendant 1 heure, on se met le petit hamster dans sa roue, vous savez.
Ouais,
mon Dieu,
oui.
Ça va pas, c'est dramatique, je vais être fatiguée. Oh là là, mais c'est une heure, là, c'est terminé. Ce qu'on se dit à soi-même est extrêmement important. Maintenant, pour terminer avec le côté technique du sommeil, si les vidéos vous font du bien, pourquoi pas, une fois de plus, soyez très vigilante, et c'est très bien ce que vous avez fait d'aller vérifier qui propose la vidéo. Parce qu'il y a...
Elle paraît être sérieuse.
Donc très bien, il faut toujours vérifier, parce qu'une fois de plus, il y a n'importe qui enregistre n'importe quoi, donc méfiance. Mais au-delà de ça, l'auto-hypnose est un très bon outil pour le sommeil.
Oui.
C'est-à-dire que
oui.
Vous pouvez vous créer des étapes. La première, c'est d'apprendre à respirer par le ventre très profondément.
Oui.
La deuxième, c'est de vous créer ce qu'on appelle un endroit ressource. C'est-à-dire, laisser glisser votre imagination soit dans un lieu que vous connaissez, que vous adorez, ou mieux encore, dans un endroit magique que vous vous créez. Quelquefois, on peut s'inventer une cabane secrète dans un arbre, un lieu magique sur une planète, sur un nuage, n'importe quel endroit imaginaire dans lequel vous seriez merveilleusement bien. Un truc qui pourrait être votre petit paradis.
Oui.
Déjà, concentrez tous vos sens, c'est-à-dire voyez les couleurs, entendez les sons, créez-vous des sensations dans cet endroit-là, qui est vraiment une manière de vous dire à vous-même, voilà, là, c'est là où je vais pour être bien avec moi-même, pour lâcher tout ce qui est à l'extérieur.
Ouais. En fait, oui.
Et une fois que vous êtes, pardon, je voudrais juste terminer avant d'oublier ce que je voulais vous dire là-dessus.
Oui,
quand
oui.
Vous êtes descendu dans cet endroit ressource, vous vous faites des suggestions à vous-même, toujours au présent, toujours en positif. Je dors de mieux en mieux. Chaque soir, je dors de mieux en mieux. Moi, je vais vous livrer mes 3 mots secrets, ça s'appelle un ancrage. Dormir, sommeil, profond. Et je ne vais pas le répéter trop souvent, sinon je vais être capable de m'endormir direct devant le micro. Non, mais c'est sérieux, plus on se crée des ancrages comme ça, plus ça fonctionne.
Ouais.
Et créez-vous une petite phrase positive tous les soirs en disant ce que vous souhaitez. Ça vous est sans doute déjà arrivé, par exemple, de vous dire, tiens, demain matin, il faut que je me lève à 6 heures, j'ai un rendez-vous important, ou même plus tôt. Et de vous réveiller 3 minutes avant le réveil.
Oui.
Mmh. Ben pourquoi ? Parce que l'inconscient enregistre tout. Et donc l'inconscient est capable de se programmer aussi pour dormir mieux et d'une traite. Mmh. Et pour ça, il faut le mettre. C'est comme dans une voiture, quand vous voulez aller quelque part, vous programmez un GPS. Et ben dans notre esprit, on peut programmer l'inconscient aussi.
Ouais. Il y a un truc qui se passe aussi, c'est par exemple, je garde ma petite fille. Et il y a des jours où j'ai pas, ça dépend des heures, ça dépend des horaires que des parents. Et quand je sais, ou même si j'ai un rendez-vous, par exemple, je sais que lundi matin, il y a quelqu'un qui va venir pour me faire une prise de sang.
Mm-hmm.
Et ça, je sais que ça va m'empêcher de dormir.
Attention, là, vous êtes en train de faire une programmation négative en disant « je suis déjà en train de me programmer parce que je sais que... »
Mais non, mais c'est-à-dire que je constate, si vous voulez, j'ai constaté, parce qu'à un moment donné, je me suis dit « mais enfin, c'est incroyable. » Et je me disais, par exemple, quand ma fille me disait « demain, je t'amène la petite à telle heure », pour moi, c'était foutu, quoi. J'arrivais plus à. Je savais qu'il fallait que je me réveille le lendemain matin.
Mmh.
Et ça me mettait dans. Ça, en plus, ça me met dans un état de stress.
Mais voilà. Alors, c'est là justement où on arrive. On quitte le domaine technique du sommeil pour en arriver aux causes. Là, ouais. Les problèmes de sommeil, c'est une conséquence d'une cause. Et la cause, c'est l'angoisse. Et oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure.
Ah oui, c'est le stress, hein, c'est terrible.
Si vous voulez, à moyen terme. Le problème de le besoin de garder le contrôle, le fait de ne pas arriver à dormir, c'est la peur de perdre le contrôle.
Oui, oui.
Et à plus long terme, si on va beaucoup plus loin dans les choses inconscientes, c'est très souvent la peur de la mort qui est en toile de fond. Parce que le sommeil quelque part est une petite mort. C'est un moment où on ne contrôle plus rien, où on lâche prise.
Oui.
C'est pour ça que je vous dis qu'il est aussi intéressant quand on a des problèmes de sommeil de travailler sur la cause d'abord. Qu'est-ce qui vous angoisse autant ? Pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise ?
Ah bah j'arrive pas à lâcher prise parce que
qu'est-ce que vous avez dû contrôler dans votre petite enfance absolument, ou quel contrôle vous avez perdu pour avoir enregistré qu'il fallait contrôler tout le temps?
Dans ma petite enfance.
Mmh.
Ah, ça c'est compliqué là. Je pense que dans l'enfance, il a fallu que je m'adapte. On m'a souvent dit que j'avais un pouvoir d'adaptation qui était extraordinaire. À chaque fois que quand j'ai commencé à travailler, par exemple, j'ai changé de profession. J'ai fait une reconversion professionnelle et j'ai choisi d'être aide-soignante. Et quand je suis arrivée à l'hôpital où j'ai travaillé pendant 10 ans, la surveillante, au bout de 15 jours, m'a dit « Je suis étonnée de la façon dont tu t'es adaptée rapidement. »
Alors ça, c'est le bon revers de la médaille des gens qui ont besoin de contrôler. C'est comme ils sont dans une quête de perfection, pour des tas de raisons. Effectivement, ils sont capables de s'adapter très vite pour que tout soit parfait. Et on va pas entamer une thérapie là maintenant, mais allez regarder pourquoi il y a ce besoin de contrôle.
Oui, mais voilà quoi. Et donc, dans mon enfance, la vie a fait que bon, j'ai été un petit peu. Il a fallu que je m'adapte, par exemple, quand on m'a retiré de chez ma grand-mère.
Et voilà. Il y a souvent une première situation de vie qui fait qu'après, on a perdu le contrôle de quelque chose et qu'on a peur. Est-ce que je peux me permettre de vous offrir une petite métaphore ? Je viens de la retrouver, que j'aime beaucoup, sur l'art du lâcher-prise. Il était une fois une femme qui voulait attraper un papillon. Elle courait, inlassablement, elle courait après ce superbe spécimen. Lorsque soudain, à bout de souffle, elle s'arrêta pour respirer. Elle s'assit dans un champ, s'enivra de la beauté de cette journée d'été, humant avec délice le parfum des fleurs sauvages, admirant les hautes montagnes qui se profilaient au loin. Soudain, le papillon se posa gentiment sur son épaule. Fin de l'histoire. Quand nous lâchons prise et que nous décrochons de notre idée fixe, nous nous ouvrons au moment présent et à toutes les expériences susceptibles de favoriser notre épanouissement. Et tout se met en place pour notre plus grand bien. Trois petits points.
Oui, c'est pas si évident que ça, mais c'est vrai que bon, le actuellement, en tout cas, le plus grand stress que j'ai, c'est la situation que vit ma fille, en fait. Et là, j'ai pas le contrôle, là, hein, personne ne l'a d'ailleurs.
Mais surtout, enfin, c'est votre fille qui le vit, c'est sa vie.
Oui, je
Alors,
sais.
Être là et l'aimer, c'est une chose, mais vous ne pouvez pas porter ses problèmes à elle.
Non, mais non, c'est vrai que je peux pas porter ces problèmes. Mais c'est souvent, enfin, c'est vers moi qu'elle s'est tournée en fait. Hein. Quand elle a décidé de partir de la maison, ils sont partis assez loin. Et je pense qu'elle l'a pas très bien. Notre séparation. Elle l'a très mal vécu.
Et vous ?
Alors oui, moi je l'ai pas très bien. La séparation pour moi, elle s'est effectuée avant. On va pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. Mais je l'ai pas très bien vécu parce que ça a été assez. Je l'ai fait parce que il fallait qu'elle se détache de moi. J'étais consciente que c'était trop fusionnel et il fallait vraiment que je parte. Et je suis partie de chez moi pour qu'elle puisse s'en aller.
Vous remarquerez quand même, Catherine, que vous m'appelez pour parler du sommeil. Et depuis le tout début, la première phrase, c'était vous, mais ma fille. Donc voilà, le nœud à travailler, il est par là. Hein.
Oui, je sais. Mais quand elle a choisi donc de venir dans cette région où on est actuellement, elle me dit, maman, est-ce que si je pars à tel endroit, est-ce que tu viendras ? Alors j'ai dit oui évidemment parce que je sais que pour sa l'aide pour la garde de sa petite fille pour qu'elle puisse se réaliser professionnellement, elle a besoin d'aide, c'est normal que je l'aide. Mais j'ai tellement peur pour elle que c'est vrai que je pense que le stress est là.
Et que c'est peut-être vous qui n'avez pas complètement coupé le cordon non plus.
Alors, oui et non, hein, quand même, hein, parce que par exemple, quand elle me dit, tel jour je viens, si je veux pas, je veux pas. Je lui dis, ah non, ce jour-là, non, tu viens pas. Par exemple, simplement aujourd'hui, j'avais une activité à faire, et je lui ai dit, samedi, il faut pas compter sur moi, hein, je suis pas là.
Oui, donc il y a un chemin qui a déjà été fait, mais à mon avis, il n'est pas complètement terminé, ce chemin-là.
Bah, c'est-à-dire que j'essaie d'y aller doucement. Pour moi, il est fait en grande partie. Hein. C'est pour elle que ce n'est pas tout à fait fait, et j'y vais très doucement. Enfin, petit à petit, je l'amène à le faire parce que elle a eu un gros souci de santé et je ne veux pas que ça recommence. Elle a fait une très grave dépression. Elle a fait un burn-out. Hein. Mm-hmm. Et je veux pas qu'elle... si vous voulez, je la sens assez fragile. Et petit à petit, je veux l'amener à effectivement être autonome.
Quel âge est là votre fille, Catherine ?
Elle a 30 ans.
Oui, mais voilà. Une dépression, ça permet aussi de grandir dans la vie. Laissez-la grandir.
Oui, c'est vrai.
Surmonter ses épreuves, ça permet d'apprendre et de grandir. Si vous l'empêchez de surmonter ses épreuves, elle va jamais grandir.
Mais j'arrive à lui faire comprendre. Par exemple, quand je suis arrivée près d'elle, j'ai senti qu'elle allait à nouveau m'accaparer complètement. Et au bout d'un certain temps, j'ai dit stop. Moi, j'ai ma vie. Je veux bien aider, mais je veux pas être envahie.
Il n'empêche quand elle a des problèmes dans sa vie, c'est vous qui ne dormez pas.
Je suis une mère, hein, quand même.
Oui, une mère, mais elle a 30 ans, votre fille.
Oui.
Hein, c'est une grande.
Oui, c'est vrai. Oui. Non, mais elle se débrouille. Non, elle est grande. Et elle est grande. Je dois dire qu'elle est même très grande parce que elle a fait un beau parcours quand même. Elle est...
Catherine, oui. Il y a beaucoup d'appels ce soir, ça fait déjà longtemps qu'on discute.
Écoutez, je vous remercie
J'espère avoir mis quelques éclairages, quelques lumières sur certains nœuds.
Oui, c'est vrai.
Et allez les défaire et puis réfléchissez à ce que je vous ai dit sur le sommeil déjà. C'est intéressant d'apprendre tout ça.
Oui, non, c'est même très intéressant pour beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous Catherine, je me permets de vous embrasser.
Merci, moi aussi.
Bonne
au revoir.
Soirée, au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et j'accueille maintenant Laetitia sur cette Libre Antenne. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci. Je suis un peu émue, quoi.
Tout va bien. Je vous fais une petite place à côté de moi dans ce studio et on va faire connaissance, si vous le voulez bien.
Oui.
Alors racontez-moi un peu votre histoire de vie.
De toute façon, déjà pour commencer, j'ai eu une année 2019 qui est fou. Janvier-février, c'était 2 mois vraiment horribles. Bon.
Donc ça ne peut qu'aller mieux maintenant.
Bon, un peu,
on va espérer.
Mais bon.
Alors, puis, avant 2019, racontez-moi un peu votre vie.
Vous savez, ma vie, elle n'est pas terrible. Elle m'a pas fait de cadeau, la vie. J'ai une mère qui me méprise, qui me supprimait ma féminité en me coupant les cheveux courts quand j'étais petite, quoi. Tandis que mes sœurs avaient toutes les cheveux longs, hein, bien sûr. Il n'y avait que moi qui avais les cheveux courts.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui n'allait pas entre elles et vous ?
C'est parce que j'avais des... Si vous voulez, j'avais des problèmes, vous savez, un peu de harcèlement scolaire. Enfin, rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui, quand même, avec les réseaux sociaux, mais j'avais des problèmes comme ça. Et puis, donc, du coup, moi, pour me faire renvoyer... Enfin, je suppose que c'était ça, mon arrière-pensée à l'époque. Je parlais pas à l'école. Alors, on m'a prise pour une gamine pas intelligente, quoi. Ça m'a... On m'a jeté dans une classe poubelle. Hein, bon, puis c'est une personne qui a du respect que pour les diplômes, les gens qui les gens qui ont de l'argent.
Est-ce qu'elle en a pas eu assez ?
De quoi ?
Des diplômes et de l'argent ?
C'est pas ça, non, c'est pas le problème, si vous voulez, c'est pas... Non, mais de toute façon, nous, on était sans plus, enfin, ni, je veux dire, mais... on n'était pas pauvres, quoi, mais on n'était pas riches non plus, non, enfin, c'est pas ça. Mais elle avait du respect, elle a du respect, de toute façon, même maintenant, c'est pareil, hein, que pour ça, et voilà. Donc, bon, donc, moi, voilà, quoi, elle me respecte pas, bon, enfin, bref, des choses comme ça, il y a eu des choses comme ça, bon. Mmh. Et moi, là, je suis... Enfin, là, c'est pas seulement depuis cette année, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Je refuse, en fait, de grossir.
De grossir ou de manger ?
Ah bah, de grossir.
Oui, donc vous vous faites vomir ?
Ben oui, c'est ça. Mmh. Et en ce moment, ce qu'il y a, c'est que... si vous voulez, ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, comme je suis... J'arrive jamais à descendre en dessous de ce que je veux... Enfin, en dessous du poids maximum que je me suis fixé, ben, du coup, je le fais tous les soirs. Alors, j'en ai marre, quoi. Parce que bon.
C'est quoi ce poids maximum que vous êtes fixé ?
Ben, écoutez, ça va peut-être vous étonner, vous allez me dire, mais parce qu'en fait, moi, j'ai quand même une maladie de l'appareil digestif, donc bon, de toute façon, les aliments solides, je les supporte pas. Donc, de toute façon, je veux dire que même si je me faisais pas vomir, de toute façon, ben. Quand je mange ce que je mange pour faire ça, en fait, c'est par exemple du riz, des champignons, admettons, hein, un truc comme ça, ben, c'est des aliments solides et ça, de toute façon, je les supporte pas. Donc si je les gardais, je veux dire, ben, de toute façon, je serais malade après, bon voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc, mais enfin, c'est pas ça, c'est que je faisais 32 kilos pour 1m47, hein, je fais 32 kilos pour 1m47. Seulement, ce qu'il y a, c'est qu'en été 2016, à un moment donné, j'ai été malade, mais là, c'était pas choisi. C'est-à-dire que je vomissais, si vous voulez, environ tous les 2 jours. mais c'était pas voulu, c'était pas exprès. Et j'arrivais presque pas à manger, enfin, et puis alors, mais c'était pas un truc volontaire, quoi. Mais du coup, j'avais perdu, et après, maintenant, je me dis, je peux pas quand même avoir repris 3 kilos depuis ce temps-là, parce que quand je vois les photos, je me plaisais mieux comme ça, mais je voulais, en même temps, je voulais pas rester forcément, parce que j'avais essayé, bon, de reprendre, enfin, juste manger normalement, enfin, non, pas normalement, parce que c'est pas, je mange jamais normalement, mais de manger normalement selon mes critères à moi, donc voilà, quoi, juste, voilà, pour aller bien, mais c'est tout, quoi. Et puis, et là, ce que je supporte pas, c'est de me dire que j'ai repris 3 kilos. Moi, en fait, en dessous, à partir de 31,700, pour moi, c'est trop.
Qu'est-ce qui vous fait donner ce chiffre-là?
Oh, c'est pas spécialement ce chiffre-là, c'est parce que si ça fait, si je fais 31,700, ça fait, en fait, ça fait, enfin, 32, par exemple, ça fait 3 kilos de plus qu'en été 2016. Je veux pas 3 kilos de plus, c'est énorme, quoi. C'est pas le chiffre en soi. Avant, non, il me dérangeait
alors,
pas.
Je reformule la question. C'est pas le chiffre, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'à ce poids-là, ça vous va, ça vous convient pour vous? Pourquoi vous êtes bien à ce poids-là?
Bah, d'abord, je fais 1m47, hein, je le précise quand même, parce que bon. Hein. Mais bah, parce que c'est, de toute façon, ça fait des années, hein, des années, même depuis 2003 peut-être, ou 2004, oui, 2004 peut-être, que je fais des poids comme ça, enfin, je veux dire, mais avant c'était 33. Après, j'avais trouvé que 33 c'était trop, moi bon, je voulais faire 32, mais 32 ça m'allait si vous voulez. Mais sauf qu'à partir du moment où j'avais perdu davantage, bon, je me disais, ouais, c'est pas possible, quoi, quand même, d'avoir 3 kilos de plus, quoi. Je veux bien 2 kilos et demi, c'est déjà beaucoup, mais bon, 2 kilos et demi plus le mien, mais pas plus, après, 3 kilos, quoi, quand même.
Et donc, si vous aviez une baguette magique, vous aimeriez descendre à combien, là?
Ah non, juste rester en dessous, juste rester au moins à 30, on va dire moi maximum 31,600. Quand je fais 31,600, il n'y a pas de problème, je fais pas de soirée ajoutée. Ce que j'appelle une soirée ajoutée, c'est quand je fais un repas que je garde pas. Si je fais 31,600, voilà quoi, ça me va. Ça paraît bizarre, je sais, mais...
Non, mais attendez, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit, Laetitia, juste pour comprendre et essayer de vous aider.
Ben oui.
Est-ce que vous êtes suivie par un nutritionniste?
Nutritionniste, non, parce qu'une fois, j'avais commencé à vouloir être suivie, enfin, voir un nutritionniste, et puis je suis partie en courant, enfin, façon de parler, je suis pas partie en courant, mais parce que je suis parvenue, parce que elle voulait me faire réintroduire des trucs qui sont impensables pour moi, genre des pâtes et tout ça. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, que les pâtes, c'est une chose, quand j'étais adolescente, et quand j'en mangeais encore, puisque avant, eh ben, je vais vous dire une chose, c'est que quand je mangeais des pâtes, eh ben, systématiquement, quand j'avais mes règles, eh ben, j'étais malade. Spécialement avec les pâtes. Donc, c'est bien qu'il y avait un truc, mais de toute façon, je sais que je digère pas les aliments solides, de toute façon. D'ailleurs, on m'a assez critiqué parce que j'étais grosse, je veux dire, j'ai quand même pesé quand j'étais adolescente, enfin, 20 ans. 49 kilos pour 1m49 à l'époque, quand même. Ah non, c'est pas possible, quoi. C'était pas possible, quoi. Faut pas exagérer, quoi. C'était grosse, quoi.
Laetitia.
Et même que c'est...
Oui, pardonnez-moi, on va devoir faire une coupure le temps des infos. Si vous voulez bien, je vous récupère de l'autre côté et on va poursuivre cette conversation parce que j'ai quelques questions à vous poser encore.
D'accord.
En tout cas, vous ne bougez pas, je vous récupère dans quelques minutes.
Europe 1. 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Et il nous reste reste une heure à passer ensemble sur cette libre antenne. N'hésitez pas à continuer à appeler pour prendre la parole tout au long de l'émission. Vous faites le 3921 et vous tomberez soit sur Amandine, soit sur Hassan qui, en toute bienveillance, vous guideront jusqu'à moi. Je vous rappelle que, comme chaque soir, vous pouvez aussi participer à l'émission par SMS en tapant le 73921 et en commençant bien par le mot « nuit ». Des SMS pour poser des questions à la personne qui intervient, pour apporter une idée, peut-être une solution si vous en avez, car vous savez que la Libre Antenne, c'est aussi une grande famille interactive. Les SMS vous servent aussi à demander à entrer en contact avec quelqu'un que vous entendez et qui vous touche. 73921, donc, en commençant par le mot nuit.
Europe 1, la Libre Antenne. Sabine Marin.
Et Laetitia, on va reprendre cette conversation qu'on a arrêtée quelques instants. Vous êtes là ?
Oui,
vous me disiez que la nutritionniste, vous êtes partie en courant. Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre qui vous accompagne ?
Ah bah si, je vois une psy, hein, ça fait quand même oui, bien sûr.
Oui.
Et
Et vous travaillez sur quoi avec elle ?
Mais moi, surtout, je lui parle de tout ce qui me fait, souffrir, quoi, parce que c'est pas des choses qu'on va raconter à tout le monde comme ça, quoi, hein, parce que bon. Donc voilà quoi.
Est-ce que vous travaillez ?
Ben non, je suis en invalidité depuis 2013. Et puis justement, ben oui, quand je disais que l'année est très mal commencée pour moi, c'est que on m'a enlevé 210€ sur ce que je gagne. Bravo, la CAF. Alors après, quand on dit que les pensions d'invalidité ont augmenté, il ne faut pas croire ça parce que c'est pas vrai. C'est complètement faux, elles ont baissé. Alors au début, c'était un choc pour moi parce que bon, de me dire déjà que je me dis, de toute façon, je n'existe pas. Alors en plus, on m'enlève ça. Bravo, quoi, je veux dire. Ah non, l'année 2019, moi...
Alors, on va petit à petit parler de ce problème de poids. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui vous disent « mais tu étais beaucoup trop maigre » ?
Ah bah oui, ça oui, bien sûr. Enfin, autour de moi, oui, bien sûr, oui.
Comment vous le prenez ?
Je dis que non, je le prends pas... On ne peut pas dire que je le prends mal, parce que ça dépend dans quel sens c'est dit, parce que si c'est juste ça, je dis non, j'aimerais bien, mais non, je suis pas... Non, je suis normale. Quand on me voit, j'ai pas l'air maigre, quoi... ça le truc.
Parce que vous ne vous voyez pas comme ça, mais je pense que les autres vous voient différemment. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais vous expliquer pour aller un peu plus au cœur du problème, Laetitia. Parce que si vous m'appelez, je pense que vous avez peut-être envie que je vous donne un éclairage là-dessus.
Ben oui.
Si vous n'aviez pas commencé par parler de votre mère, je vous y aurais amené parce que la grande majorité des gens qui ont des problèmes avec la nourriture, que ce soit la boulimie, que ce soit l'anorexie, que ce soit des vomissements plus ou moins volontaires... C'est toujours, pratiquement toujours lié à un rapport dans l'enfance conflictuel avec maman. Parce qu'un enfant, le seul moyen qu'il a de s'exprimer, c'est par ce qui rentre ou ce qui sort de la bouche. Il n'a pas d'autre moyen quand il est dépendant d'une maman. Et donc c'est là que ça commence. Et vous avez comme par hasard commencé par me dire à quel point vous avez été maltraitée. Là, vous me dites « je n'existe pas, cette mère ne vous a pas laissé de place ». Cette mère vous a...
Ben, non, parce qu'elle, elle avait du respect que pour... on est quatre. Mm-hmm. Elle avait du respect que pour sa fille. Je dis sa fille parce qu'il n'y en a qu'une qui compte pour elle. D'ailleurs, mon père, maintenant, il est devenu pareil. Parce qu'avant, lui, il était contre les injustices. Et maintenant, il est pareil. Même, il est même encore pire maintenant qu'elle. Parce qu'ils ont un parti pris pour cette fille-là. Mais c'est pas possible, quoi. Alors, elle, c'était la plus... Vous savez, un jour, un ami de la famille qui vient, ben c'est ma sœur aînée qui m'a rappelé, parce qu'avec elle je m'entends bien, qui m'a raconté ça une fois, mais puis ça m'est revenu, j'ai dit oui c'est vrai, t'as raison, ça devait être en 73 par là, donc j'avais 8 ans, hein. Il y avait un ami de la famille qui était venu à la maison, et puis il paraît qu'il avait dit comme ça, ah, celle-là, en parlant de mon ex-sœur, hein, parce que je la considère comme, je lui parle plus, hein, mais je lui parle plus, cette sœur-là, l'autre-là. Celle-là, c'est la plus intelligente. Je vois pas comment quelqu'un qui arrive comme ça depuis 5 minutes, on y a 4 gamines en bas âge, hein, parce qu'on est toutes moi je suis de 65, et on est né entre 63 et 68, donc je sais pas si vous voyez, mais en 73, on n'était pas vieilles. Hein, je vois pas comment quelqu'un peut décréter ça comme ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dit, les parents ? Ben, je sais pas, elle se souvient pas, mais Je dis après tout, si on s'en souvient pas, c'est que quand même, s'ils avaient fait un scandale, on s'en serait souvenu. S'ils avaient dit, ça va pas, non. Vous vous rendez compte d'aller dire des choses comme ça?
Il y a une grosse colère chez vous, Laetitia.
Oh là là, bah oui, bah y a de quoi quand même, oui.
Sauf que vous vous trompez d'ennemi. C'est à vous que vous faites du mal. Dans ce combat permanent contre votre corps, c'est à vous que vous faites du mal et vous vous trompez d'ennemi.
Bah oui, mais moi, on me reprochait quand j'avais... moi, vous savez, même quand j'avais un peu de poids en trop, et ben, à moi, on me le reprochait. Hein. C'est ça, quoi.
Ce que les autres disent de vous, ça ne vous appartient pas? C'est leur regard? Ce qui est plus embêtant, c'est que c'est votre rapport à vous-même. Vous vous faites du mal dans cette gestion permanente, dans cette restriction. Vous savez très bien que vous abîmez votre corps en vous vomir. Et vous vous faites du mal à vous. Et donc, je le répète, réfléchissez à ça et travaillez-y avec votre psy, vous vous trompez d'ennemi. La colère que vous avez contre votre mère et plus globalement contre vos parents, vous la retournez contre vous-même, inconsciemment. Justement parce qu'ils ne vous ont pas aimé assez, vous devriez vous aimer beaucoup plus.
C'est pas aimer, c'est respecter. Je voulais être respectée. Moi, je ne veux pas qu'on me considère comme quelqu'un de pas intelligente, je suis comme tout le monde, je suis pas plus intelligente que d'autres, mais je suis pareille
bien
que
sûr,
tout le monde.
Mais bien sûr, mais ça c'est quelque chose qui déraille chez eux, que vous avez endossé du coup. Mais quand vous dites respecter, est-ce que vous respectez votre corps aujourd'hui? En le traitant comme
ah
ça?
Ah ben je l'aime pas, alors c'est vrai que je l'aime pas, donc je le respecte pas trop, non?
Et ben voilà. Et je vous le redis, vous vous trompez d'ennemi. C'est pas à vous qu'il faut faire du mal. On vous a fait du mal et inconsciemment, vous continuez sur ce chemin-là. Vous avez dit plusieurs fois, de toute façon, j'existe pas. C'est pas vrai, Laetitia, vous existez. C'est juste que vos parents n'ont pas eu, pour des raisons que j'ignore, le comportement adéquat. Ils ne vous ont pas valorisé. Ils ne vous ont pas donné confiance en vous. Ils ne vous ont pas donné de l'estime.
Ben oui.
Parce qu'ils avaient probablement eux-mêmes un truc qui déraillait quelque part, parce que c'est pas normal de faire ça. Mais ça veut pas dire que vous n'avez pas de valeur et que vous n'existez pas. Bien sûr que vous avez de la valeur et que vous existez. Et si eux n'ont pas pris soin de vous, c'est vous qui devez prendre soin de vous. Et pas vous faire du mal. Sinon, c'est presque comme si vous leur donniez raison. Or, ils n'ont pas raison. Vous avez de la valeur, comme n'importe qui d'autre, vous avez de la valeur. Et vous méritez d'être heureuse, vous méritez d'être bien et de respecter votre corps.
Ben oui, mais il faudrait que... Je ne demande pas grand-chose, juste que j'arrive à rester au poids que je veux. Enfin, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas une grosse, différence. Il n'y a pas 10 kilos à perdre. Il n'y a même pas 5 kilos à perdre. Mais bon,
Laetitia, il n'est pas là le problème. L'ennemi, ce n'est pas le poids. L'ennemi, c'est le manque d'estime de vous-même. Quand vous aurez retrouvé l'estime de vous-même, vous ne serez pas à 2 ou 3 kilos près. Parce qu'objectivement, ça n'a aucune espèce d'importance. Et votre poids, vous le savez très bien quelque part au fond de vous. Il est beaucoup trop faible. Vous vous mettez en danger en faisant ça. Mais je comprends que vous ne voulez pas l'entendre. Tous les gens qui sont dans votre situation sont persuadés que s'ils arrivent à un poids précis, ça ira beaucoup mieux. Mais ça n'ira pas beaucoup mieux, c'est pas vrai. Une fois de plus, vous vous trompez de combat et d'ennemi. C'est comme des gens qui veulent faire de la chirurgie esthétique et qui se disent mais quand mon nez sera refait, quand mes seins seront refaits, quand ça sera refait, ma vie ira tellement mieux. C'est un leurre. Le problème, il n'est pas sur la balance. Il est dans le manque de respect, le manque d'estime qu'on vous a infligé petite et qui vous fait encore mal aujourd'hui.
Vous savez, quand on nie votre intelligence simplement parce que à l'école, bon, à un moment donné, vous n'avez pas parlé parce que, bon, voilà, pour des raisons. Ça suit toute la vie après ça. Ça suit toute la vie. Hein. Après, je pense pas, ça ne veut pas dire que je pense à ça 24 heures sur 24, heureusement que non. Hein, parce que, bon, par ailleurs, j'ai des activités qui me plaisent. Bon, je veux dire, je ne suis pas non plus. Mais
ça
voilà,
vous a blessé, quoi, ça vous a blessé suffisamment pour que ça reste un peu une toile de fond, quoi.
Oui, quand même, oui.
Quand vous dites des activités qui me plaisent, vous faites quoi, par exemple?
Vous savez, je fais des activités de perles, de la broderie, des choses comme ça, et ça me plaît.
Ça, c'est très bien. Concentrez-vous sur des choses qui vous font du bien, sur des gens qui vous font du bien, des activités qui vous plaisent. Prenez soin de vraiment. C'est une formule un peu galvaudée, prenez soin de vous, mais là, en l'occurrence, ça s'applique vraiment. Prenez soin de vous. Parce que personne d'autre le fera. Vos parents ne l'ont pas fait pour vous quand vous étiez petite, et personne d'autre le fera maintenant. C'est à vous de le faire. C'est à vous de prendre la petite fille intérieure par la main et lui dire « Viens, moi, je vais m'occuper de toi. Moi, je te trouve intelligente et moi, j'ai confiance en toi. » Plutôt que de l'affamer pour la faire souffrir encore plus et la faire disparaître. Cette petite fille à l'intérieur de vous, elle a besoin que vous la preniez par la main.
Mais vous savez qu'en même temps, je m'affame pas parce que, bon, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas de gros besoins. Si vous voulez, j'ai pas de gros besoins de... Donc, je suis vite satisfaite, mais moi, je préférerais passer une soirée après avoir mangé un petit peu, mais que c'est tranquille, quoi, plutôt que passer 2 heures.
Mais évidemment.
Oui, c'est pas agréable, quoi.
Parlez de ça avec votre thérapeute. D'aller consoler cette petite fille à l'intérieur et d'aller lui donner tout ce respect qu'elle n'a pas eu. Et oui, c'est important. Puisque personne n'a pris soin d'elle, c'est vous qui allez prendre soin de votre petite fille intérieure. Et de la grande fille que vous êtes aujourd'hui. Pour justement vous autoriser à être heureuse, vous autoriser à avoir des soirées plus agréables. Juste normal. Même si vous, effectivement, vous avez un appétit d'oiseau, d'après ce que j'entends, vous avez un physique aussi d'oiseau, vous êtes plutôt petite, plutôt fine. Pourquoi pas, mais il y a un équilibre à retrouver. Pour l'instant, vous n'êtes pas dans cet équilibre.
Mais moi, c'est juste ça. Je voudrais, en fait, arrêter d'être obligée à chaque fois de faire ça, quoi.
Vous êtes, pour l'instant, vous vous obligez vous-même, en fait, une fois de plus, parce qu'il y a ce problème-là à régler. Mais je vous assure qu'on peut sortir de ça.
Et oui, mais si je me mets après à grossir et à grossir et à grossir...
Mais pourquoi voudriez-vous grossir? Il n'y a aucune raison. Vous trouverez juste un équilibre.
Parce qu'avant, j'avais un tempérament à grossir.
Avant quoi?
Avant de changer, parce que moi, là, ça fait des années, ça fait des décennies même que j'ai fait des régimes, hein. Parce que je voulais pas rester comme j'étais, hein. Alors j'avais fait des régimes et voilà, mais...
Je vous le redis, Laetitia, je vous le redis, vous vous trompez d'ennemis et vous vous trompez de combat. Vous êtes en lutte contre vous-même. On vous a fait du mal et vous continuez à vous faire du mal. Faites-vous du bien maintenant. Travaillez vraiment avec votre thérapeute sur ça, sur l'estime de vous, sur le respect de vous-même. Apprenez à avoir de l'estime pour vous, à vous respecter vous-même, et l'équilibre se fera tout seul. Et quand vous serez bien avec vous-même, 2 kilos de plus ou 2 kilos de moins, ça n'a aucune espèce d'importance, tout le monde s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'être bien et en bonne santé. Le reste, c'est un leurre.
En plus, j'ai pas rangé les choses parce que, si vous voulez, j'ai pas rangé les choses parce que les balances, je les cogne quand ça m'énerve, quoi. Je les cogne, alors bon, ça les arrange pas.
Là aussi, vous vous trompez de combat. C'est pas contre ça qu'il faut vous fâcher.
Forcément, c'est vrai qu'en tapant dessus, peut-être qu'après, du coup, ça les détraque un peu, mais bon.
Je ne peux pas régler ce problème-là, vous comprenez bien, par téléphone, Laetitia, c'est un problème profond, mais vraiment, écoutez, et j'espère que le message que je vous transmets arrive quelque part au plus profond de votre âme et de votre esprit. Vous vous trompez de combat. On vous a fait du mal et vous continuez à vous en faire. Faites-vous du bien, au contraire. Travaillez avec votre thérapeute, vous avez la chance d'être accompagné. Travaillez sur l'estime de ça. Allez restaurer la petite fille à l'intérieur de vous. Prenez-la par la main et au lieu de l'affamer, aimez-la. et vous verrez que les choses se rééquilibreront très bien. Il y a un chemin à faire, mais il est faisable ce chemin, pour vous libérer de tout ça.
Oui, mais est-ce que je peux garantir que je ne vais pas regrossir? C'est une obsession.
Et pour l'instant, oui, mais ça ne le sera plus.
Oui, mais quand on a été grosse, on l'est toute, c'est comme si on l'était toute sa vie après. Quand on l'a été, c'est comme si on l'était toute sa vie, en fait. C'est ça le problème avec ça.
J'ai pas vraiment l'impression que vous ayez été grosse, Laetitia. C'est encore une de vos perceptions de vous-même.
Ben, si j'ai été grosse il y a longtemps, mais il y a longtemps quand même. Parce qu'après, j'avais pas perdu d'un coup, hein. Mais j'avais perdu en plusieurs années, en fait, petit à petit. Bon, mais voilà, quoi. Mais si, quand même, parce que quand je pesais... Bon, 49, bon, ça a été un extrême. Hein. Mais quand je pesais une quarantaine de kilos, quand même, pour 1m47, 49, non, c'était quand même trop. Hein. Ah non, c'était trop.
Bah, pour vous, oui, mais en réalité, non. Mais on tourne en boucle, là, Laetitia, vraiment. On tourne en boucle sur le même problème. Vous vous trompez de combat. Oui. Vous êtes persuadée que le problème ou la solution, c'est dans votre poids. Il n'est pas là, le problème. Il n'est vraiment pas là. Il est dans ce manque de respect et manque d'estime avec lequel on vous a fait grandir, dont on vous a entouré, et que vous reproduisez inconsciemment aujourd'hui. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler avec votre thérapeute.
Oui.
Allez, cette petite fille à l'intérieur de vous, vraiment prenez soin d'elle, c'est important. D'accord ?
D'accord.
Vous la voyez tous les combien, cette thérapeute ?
Je la vois tous les 15 jours. Alors là, c'était le 4, donc ça sera le...
Peu importe, c'est un rythme, c'est un bon rythme. Je préfère entendre ça que vous me disiez que vous la voyez tous les mois ou tous les deux mois.
Non,
et juste gardez dans un coin de votre tête cette conversation qu'on a eue ce soir et dites-vous bien que vos parents et notamment votre mère vous ont fait beaucoup de mal, petite, et qu'il est vraiment temps de vous faire du bien maintenant pour pas continuer ce schéma-là qui a été destructeur. Ils n'ont pas voulu vous laisser de place, ils ont été méprisants, ils ont été humiliants. Méprisant, humiliant, ils ne vous ont absolument pas aidé à grandir dans l'estime et la confiance en vous. Et donc c'est à vous de redresser la barre pour que ça change aujourd'hui et ne pas leur donner raison en essayant de disparaître finalement. Parce que quand on veut maigrir beaucoup, c'est juste qu'on a envie de disparaître, devenir invisible. Vous n'êtes pas invisible, vous existez, prenez votre place dans votre vie.
C'est-à-dire plutôt ce que j'ai eu l'impression, en fait, c'est ce que j'ai eu l'impression. Je pense que ce que j'ai voulu aussi avec ça, c'est en même temps que mon corps n'existe pas plus que moi j'existe dans la vie, parce que je n'existe pas tellement dans la vie. Hein.
C'est ce que je suis en train de vous expliquer.
Pour exister dans la vie, il faut avoir... D'abord, déjà, il faut avoir une bonne situation pour exister dans la vie, parce que sinon...
Oh, je ne suis pas sûre de ça, non. Non, l'argent n'a rien à voir avec ça. Vous confondez être et avoir.
Le bonheur s'achète avec de l'argent, je vais vous dire. Hein. Ça paraît... Je sais bien que c'est...
Oh là là, bon...
Ça paraît, incorrect de dire ça, mais si, quand même, parce que bon...
Parce que vous confondez être et avoir, et comme vous n'êtes pas, puisque vous dites que je ne suis rien, forcément vous vous raccrochez à l'avoir. Mais quand on est quelque chose, quand on est quelqu'un soi-même, on n'a pas besoin d'avoir pour exister.
Ah ben pour vivre, il faut avoir quand même. Enfin bon, j'ai quand même un minimum, mais je veux dire, voilà quoi... C'est mieux quand même.
Bon, Laetitia, promettez-moi d'aller travailler avec votre thérapeute sur cette petite fille à l'intérieur et de prendre soin d'elle, comme vous auriez voulu qu'on prenne soin de vous quand vous étiez petite.
D'accord.
C'est comme ça qu'on commence à se réparer soi-même et à se faire
D'accord.
du bien. D'accord ?
Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas. Je vous remercie beaucoup de m'avoir
Vous avez de la valeur, vous existez, alors prenez votre place.
Merci pour ça.
Je vous embrasse, Laetitia.
Merci, je vous embrasse aussi.
Au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Et je vais faire maintenant la connaissance de Mireille. Bonsoir à vous, Mireille.
Bonsoir, Sabine. Vous m'entendez bien ?
Je vous entends très bien et votre petit accent, mais du soleil dans ce studio.
Ah ben voilà. Ah ben écoutez, tout le monde me le dit, moi je ne me rends pas compte.
Ah ben écoutez, nous on s'en rend compte et c'est très agréable en tout cas.
Ah ben c'est très gentil. Ben écoutez, je suis une fidèle auditrice depuis, je ne veux pas vous dire le nombre d'années.
Ça nous vieillirait toutes les deux.
J'ai déjà appelé, j'avais appelé Caroline, Sophie, et puis j'avais envie de vous parler ce soir parce que c'est un peu le tsunami dans ma tête.
Ah.
Voilà. Alors, pour faire court, enfin, je vais essayer de faire court, hein, bon, pour raconter un peu ma vie, mais vite fait, parce que c'est pas le sujet, c'est la grande question. Bon. J'ai fréquenté quelqu'un dont j'étais extrêmement amoureuse, j'avais 22 ans.
Bon.
Et mes parents, en y trouvant qu'il était trop, que sa situation était trop bien par rapport à la nôtre, m'ont conseillé de rompre.
Ah oui.
Ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que moi j'étais très obéissante et très bête. D'ailleurs.
Trop bien, d'habitude les parents disent toujours le contraire, il n'est pas assez bien pour
toi. Oui, ben exactement. Ah non, parce que vous comprenez, non, parce que peut-être tu ne seras pas...
Complexe d'infériorité ?
Je crois que c'est mon père, parce que je l'ai compris longtemps après. Parce que mon père s'était engagé dans l'armée, et le père de ce jeune homme était officier à Saint-Gallon, dans la marine. Enfin bon, donc c'est vrai que c'était pas la même, on va dire, la même chose. Enfin bon, j'ai obéi, mais j'en ai été malade, hein. Là, ça m'a fait un traumatisme terrible. J'ai rencontré très vite mon ex-mari, et je me suis mariée, vous savez... j'ai dit, allez, je m'en vais de cette ville, je pars, je refais. Ben, enfin, j'ai rien refait, hein. C'est toujours resté dans ma tête.
C'était une fuite, plutôt.
Comment ?
C'était une fuite.
Une fuite, ah oui, ouais. Ça a été une fuite, oui, oui. Surtout qu'après, j'ai appris qu'il me recherchait, alors donc, pensez un peu. Bon, et donc finalement, au bout de 13 ans, j'avais deux enfants, et j'ai divorcé parce que ça marchait pas du tout, on s'entendait pas du tout. C'était pas du tout par rapport à ça, c'était quelqu'un qui me correspondait pas du tout, avec lequel je m'entendais pas, enfin bon. Donc je suis partie avec mes deux enfants et deux valises. Voilà. Et donc après, heureusement que je travaillais, j'étais dans l'enseignement et j'adorais mon travail. J'adorais mon travail. Je m'entendais bien avec les élèves, avec les parents.
Vous étiez prof de quoi ?
Comment ?
Vous étiez prof de quoi ?
Prof d'anglais.
Ah ouais, d'accord.
Et en fait, après j'avais quand même une autorité. Je veux dire, j'étais pas quelqu'un, il n'y avait pas le bazar hein, quand même. Hein, bon. Mais je trouvais qu'on pouvait travailler en ayant quand même des moments un peu sympathiques, bon, tout en travaillant, hein. Voilà. Et puis donc, ça m'a aidé à tenir le coup. Ma mère s'est beaucoup occupée de mes enfants. Bon, parce que moi, mes enfants étaient jeunes hein, quand je suis partie, hein.
Ils avaient quel âge ?
Ma fille avait 4 ans et mon fils avait 11 ans.
Ah oui.
Donc, ma mère s'est beaucoup occupée de mes enfants. Bon, moi, je travaillais, je faisais 60 kilomètres par jour pour aller travailler. Enfin, voilà, tout ça, ça a duré longtemps. Et puis, finalement, bon, ben, écoutez, là, j'en arrive au point, finalement, la personne dont je vais vous parler m'a recherchée plusieurs fois dans sa vie.
Le premier amour ?
Non, pas lui. Lui, il m'a recherché, puis après, il s'est marié, je crois qu'il a divorcé. J'ai fait plein de choses pour le retrouver, mais je ne l'ai jamais retrouvé. Bon.
Ah, d'accord. Alors, qui vous a recherché, le petit
flirt que j'avais eu, bon, ben, lui, il m'a retrouvé, parce qu'en fait, il a divorcé. On a divorcé en même temps, sans le savoir. Il savait à peu près où j'habitais, le village dans lequel j'habitais, mais il venait, et puis on ne s'est jamais revu. Voilà. Donc, ce qui m'aidait à tenir, c'était quand même bon, l'aide de ma mère qui, au demeurant, s'est toujours mêlée de tout ce qui ne la regardait pas. Mais ça, ce serait un autre débat.
Ah, mais c'est un peu la contrepartie quand on se fait aider par maman.
Ah,
ben, du coup, elle s'immisce.
Bah, oui. Oui,
on ouvre la porte, hein, du coup, elle y rentre.
Ah oui. Et ça m'a donné de bonnes leçons pour mes enfants, moi. Oui. Et puis après, si vous voulez, bon, et puis je fréquentais personne, vous voyez. J'allais travailler, je m'occupais de mes enfants, parce qu'après, il a fallu que je m'occupe de ma mère aussi, qui a vieilli, elle est décédée à 94 ans, hein, bon. Et elle était chez moi, bon. Et donc, finalement, si vous voulez, j'allais beaucoup danser, j'adorais danser. Alors, je dansais le rock, j'adorais danser, voilà. Et donc, ça m'aidait à tenir. Et puis, je me suis retrouvée à la retraite, me retrouvée comme si c'était une surprise, et que je l'ai très mal pris. J'ai très, très mal vécu quand je rencontrais mes élèves qui me disaient, mais alors, madame, parce qu'ils habitaient dans le quartier, mais alors, mais vous vous êtes arrêtée, mais comment ça se fait? Parce que j'ai toujours été assez jeune dans ma tête, hein, et puis un peu de look aussi, hein, bon. Donc, mais alors, mais vous travaillez plus, mais nous, enfin, voilà. Et ça me faisait plaisir de retrouver mes élèves, bon. Et puis, à l'époque, j'avais un copain qui était extrêmement jaloux, donc, pour plus avoir de soucis, je suis plus allée danser. Voilà. Mmh. Et après, bon, bah, après ma mère ayant pris de l'âge, ben, elle est venue vivre avec moi. Voilà. Et puis j'ai retrouvé, ça je ne veux pas trop en parler pour pas qu'on me reconnaisse. On va dire peut-être on me reconnaîtra, mais bon. Et j'ai retrouvé le fameux flirt de dont je veux vous parler d'ailleurs.
Et comment vous l'avez retrouvé?
Ben justement, je ne veux pas en parler. Ah, il est passé par ma fille, il a cherché sur Internet.
D'accord. Enfin, bon. C'est lui qui vous a retrouvé, alors, retrouvé. Plutôt.
Et lui avait des problèmes de santé importants. Bon, mais il m'a dit, mais écoute, je viens... Alors, ma fille m'a dit, mais je suis sa fille. Alors, il a dit, ben, donnez le numéro à votre mère. Si, donc, on s'est retrouvés, si vous voulez, amicalement, on va dire. C'était parti comme ça, bon. Et puis, ça n'a pas été comme ça du tout. Et donc, finalement, ben, écoutez, voilà. Puis, on est resté 2 ans. Il venait me voir. Mais enfin, il était quand même... Il avait des rayons et tout ça. Enfin, bon. Mais ça m'a pas arrêté. Parce que ma fille m'a dit, maintenant, il faut que tu t'occupes un peu de toi, maman. Tu t'es assez occupée de nous. Ma mère est décédée. Et j'ai vendu mon appartement. Vous vous rendez compte, j'ai perdu ma mère. J'ai vendu mon appartement. Je suis allée acheter un appartement à côté d'où j'ai passé mon bac. Bon, que j'avais dit que je ne reviendrai plus jamais dans cette ville.
Et pourquoi vous êtes revenue là?
Ben pour lui.
C'est très loin, bon. Il était très loin de chez vous?
Ben il était, oui, on était quand même à 80 kilomètres.
Ouais.
Alors je dis, ben écoute, moi de toute façon, bon lui il était hors de question, on pensait qu'il parte de chez lui, ça pas du tout. Bon, mais je suis pas allée habiter parce qu'il habite dans un village lui aussi. Moi non, je suis dans une ville.
Et vous n'avez pas envisagé à ce moment-là d'habiter ensemble?
Ah non, on n'avait jamais envisagé ça, jamais. On avait envisagé de se voir. Et puis finalement, ben, les 2 ans, parce que finalement l'histoire a duré quand même 5 ans, bon, les 2 ans où moi j'étais à 80 kilomètres, il venait me voir tous les 15 jours et tout ça. On se téléphonait 6 fois par jour, on s'envoyait des cartes avec des cœurs, comme une histoire d'ado, on va dire. Voilà. Et quand je suis venue ici, je suis arrivée en catastrophe, j'ai acheté en catastrophe, et puis finalement, ben, ça s'est pas bien passé.
Ah. Est-ce que vous lui avez parlé de ce projet de vous rapprocher de lui? Ou est-ce que vous l'avez mis devant le fait accompli?
Ah ben non, on en a parlé. Et ben, il m'a jamais demandé, il m'a rien demandé, mais il était très content que je vienne. Ça oui.
D'accord. Et au niveau de sa santé, il allait mieux?
Il allait mieux, il y avait des hauts, des bas, enfin bon, je l'ai quand même bien épaulé, on va dire, parce qu'il m'a dit une ou deux fois, ben, après on n'a pas besoin de le dire tous les jours, hein. Heureusement que tu es là, parce que franchement, tu m'aides beaucoup et tout ça, bon, mais je l'aimais beaucoup, voilà, c'est tout. Et puis finalement, de temps en temps, il m'a envoyé, vous savez, une vanne pas sympathique du tout.
Ah oui, quel genre?
Eh ben quel genre, ben écoute, si t'es pas contente, puis t'as qu'à revenir d'où tu viens.
Oui, ça refroidit.
Voilà, et puis après, mais d'autres, je veux pas trop en parler, bon, parce que ce serait trop long, hein, c'est pour ça que j'essaie, c'est pas que je veuille pas dire les choses, mais si vous voulez, un peu ce genre de choses, quoi, si vous voulez. Une fois, je vous l'avais dit, parce que moi, je dormais pas, j'entendais la dame qui arrivait pas à s'endormir, qui s'endormait, moi, je m'endors qu'à 5-6 heures du matin, hein.
Oui.
Et je dors que 3 heures d'ailleurs. Je vais revoir mon psy à 80 kilomètres, mais je vais le retrouver là parce que j'ai besoin de le voir. Bon, Donc, si vous voulez, bon, il me disait, je dis, c'est vrai, une fois, vous savez, gentiment, hein, parce que la soie le blesse, je lui ai dit, c'est vrai qu'on n'a pas le même rythme de sommeil. Hein. Il m'a dit sèchement, mais je préfère avoir le mien que le tien.
Oui, donc, bref, de fil en aiguille, la situation s'est détériorée.
Voilà. Et puis, eh ben, écoutez, ça a été la goutte de trop. Un jour, par téléphone, eh ben, il m'a encore envoyé une vanne. Je lui ai dit, tu sais quoi, on arrête là, par téléphone, hein. On arrête là, je lui ai dit, moi, j'ai plus envie d'entendre ça, on n'a aucun point commun, c'est bon, je ne suis pas heureuse, c'est bon. Mais je n'arrive pas à m'en remettre, alors c'est ça, que justement, j'en arrive là, je n'arrive pas à comprendre Sabine, alors que c'est quelqu'un pour lequel je n'ai pas plus de sentiments, que finalement, je vais dire, j'ai plutôt du mépris, parce que, bon, voilà, pour plein de choses que dont j'ai pas le temps de parler, parce qu'il y a plein de gens qui veulent vous contacter, bon, et donc, j'arrive pas à me remettre. Il faut dire que je me suis retrouvée dans un total isolement quand même. Hein.
C'est ce que j'allais vous dire. Comment ça s'est passé ? C'est-à-dire qu'au téléphone, vous lui dites « on arrête », mais j'imagine que vous espériez qu'il se batte un peu pour vous.
Ah, mais vous savez quoi ? Même pas.
Oui, c'est ce que j'entends, mais vous auriez aimé ça, qu'il essaye
non,
de...
Non, même pas.
Non, même plus.
Non, non.
Vous étiez au bout du truc ?
Ah non, j'en avais... Mais alors là, vraiment, c'était trop...
Ras-le-bol, quoi.
Là, ça suffisait, quoi.
Et oui, donc, vous partez à 80 km de chez vous, et du jour au lendemain, pour quelqu'un qui vous lâche, quoi, grosso modo.
Ben, c'est moi
oui,
qui ai pris la décision.
Mais parce que
oui, mais si vous voulez, je me suis retrouvée ici, dans ma ville de naissance, en ne connaissant personne.
Et vous n'auriez pas eu envie de repartir là où vous étiez avant ?
Non, je déteste cette ville. Je déteste.
Ah bah donc c'est plutôt une bonne chose alors ça.
Non mais ça c'est une bonne chose.
Vous
mais
avez
il m'a
perdu...
fallu un an pour que je m'en convainque.
D'accord. Donc voilà. Vous n'êtes quand même pas tiraillé par le regret d'avoir quitté un endroit merveilleux quoi.
Pardon.
Vous n'êtes pas tiraillé par le regret d'avoir quitté un endroit merveilleux.
Mais vous savez, dans mon ancien appartement, j'avais l'impression d'être en visite parce que j'avais acheté en urgence, parce que j'étais malade, il fallait que je me rapproche de mon travail, donc c'était une urgence, mais ça a été très bien. Parce que l'appartement convenait très bien, mes enfants ne s'entendent pas, il y avait beaucoup de place, enfin bon, c'était très bien. Bon, j'étais à 5 minutes de mon travail. Et ici, chez moi, là, que j'ai acheté, parce que si je n'avais pas acheté, je serais reparti. Ben écoutez, j'ai l'impression d'être en visite.
Ah oui, donc vous n'êtes pas bien non plus, là.
Je vis dans ma chambre.
Ouais, ça, c'est pas très bon signe. Où est-ce que vous seriez bien ? Où est-ce que vous auriez envie de vivre ?
Mais je le sais pas, Sabine. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Alors, en plus, quand je vois les gens, comme ça se voit pas que je me maquille, que... Vous voyez ce que je veux dire ?
La vitrine est toujours là, quoi.
Comment ?
La vitrine est toujours belle.
Oui, je pense, oui.
Mais à l'intérieur, c'est un peu en vrac.
Absolument. Là, je suis complètement effondrée. Effondrée, et je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à me remettre alors que je n'ai pas, c'est ma grosse question, que je n'ai pas de sentiments, que c'est quelqu'un que je méprise parce que pour des trucs plein de trucs, bon voilà, qui ne me correspond absolument pas et je n'arrive pas à remonter la pente.
Alors peut-être que dans cette histoire-là, c'est pas le problème, c'est pas le comment vous dire. C'est pas le deuil de lui qu'il faut faire,
ah
parce qu'effectivement, visiblement, vous n'avez plus de sentiments pour lui. C'est le deuil de l'histoire que vous avez rêvé de vivre.
Ah, ça, c'est vrai. Ah oui, ça, c'est vrai. Parce que je suis arrivée, moi, j'ai jamais pris de risque pour un homme, jamais. J'avais mes enfants, j'avais mon travail, j'aurais pas pris de risque, hein, j'assurais mes arrières, hein, bon. Mais c'est vrai que cette histoire, je suis arrivée la bouche en cœur, mais persuadée à 300% qu'il n'y avait pas de souci, que ça allait marcher, quoi.
Oui, je me demande si vous ne l'avez pas un peu enjolivé, cette histoire, si vous ne vous êtes pas fait un conte de fées au début. Et c'est peut-être ça qui est le plus dur à lâcher, parce que lâcher lui, l'oublier lui, ça ne m'a pas l'air très très compliqué.
Ah non, pas du tout.
Ce qui est difficile pour vous, c'est de faire un trait sur cette belle histoire que vous auriez aimé vivre, que vous
oui,
vous êtes raconté au départ et que vous n'avez pas vécu, en fait.
J'ai quand même été malheureuse, quoi, si vous voulez, avec mon ex-mari. Bon, après, je suis divorcée depuis 35 ans, je n'ai jamais refait une histoire avec quelqu'un.
Oui, c'est ça. Je pense que là, ce qui est le plus compliqué à oublier, à casser, c'est ce lien avec presque le fantasme que vous aviez d'une belle histoire
ah
que
oui,
vous auriez voulu
ouais.
vivre. Et c'est ça qui probablement a du mal à passer. Parce que lui, visiblement, ouais. on sent bien que voilà, ça vous a...
Ah non, mais alors là, franchement, c'est même pas...
Il pourrait disparaître du jour au lendemain, ça ne serait pas un problème pour vous.
Ah non, 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 moi de toute façon, là, c'est vraiment clair et net.
Et ce qui est difficile, et ce qui est douloureux encore, c'est de faire le deuil d'une belle histoire que vous êtes peut-être un peu racontée, que vous auriez aimé vivre, et qui n'a pas eu lieu en réalité, parce que...
Que je croyais, effectivement.
Que vous croyez,
je croyais la vivre, oui.
Et peut-être que...
ça n'a pas été simple, parce qu'avec ces problèmes de santé, on était toujours, comment vous savez, on allait voir les... D'ailleurs, une ou deux fois, il m'a dit, heureusement que tu as été là, tu m'as épaulé, tout ça. Mmh. Bon, il va bien, mais tant mieux. Hein. Moi, je ne lui souhaite pas qu'il aille mal, hein, ça soit loin de là. Mais par contre, je me dis, mais il n'a jamais changé rien dans sa vie, quoi. Il me proposait d'aller faire un petit tour dans le village... Voyez-vous, alors que moi j'avais envie d'aller un peu sur le port parce que bon, on habite au bord de la mer. Bon. Et on n'y est jamais allé.
Oui, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde du tout, visiblement.
Non, lui, de toute façon, il faisait son petit truc, il faisait sa petite vie. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi, pourtant je l'entends ce que vous me dites. Je l'entends, je l'intellectualise, je le comprends très bien. Et je ne comprends pas pourquoi je réagis comme ça.
Parce que je pense que ça touche à quelque chose de très profond qui est peut-être que en espérant vivre cette histoire d'amour-là, vous espériez réparer beaucoup de choses du passé.
Ah, ça oui, ça c'est sûr. J'espérais réparer ma première histoire, oui.
Et donc, bien au-delà d'une simple histoire d'amour qui n'a pas fonctionné, ça touche des choses bien plus profondes. Vous avez créé un scénario probablement en vous disant que cette fois-là, ça allait être la bonne et que ça allait effacer tout le reste. Et donc, ça ne marche pas avec lui, mais du coup, ça n'a pas effacé le reste. Donc, ça fait beaucoup de choses à digérer.
Ah oui, c'est vrai ça. C'est vrai, parce qu'en fait, finalement, oui, effectivement, je pensais moins à ma première histoire d'amour, là, qui a été quelque chose de terrible pour moi. Hein. À vivre, ça a été vraiment... Je me suis carrément effondrée, quoi.
Ben, j'entends bien, et c'est pour ça que je vous dis ça, c'est que finalement, depuis qu'on a cette conversation, au lieu de me parler de lui dès le départ, vous avez commencé à me parler des autres histoires d'amour. Comme si finalement celle-là aurait dû effacer les autres et manque de chance, elle n'a pas effacé les autres.
Pas du tout.
Et donc voilà, c'est toute une histoire de vie là qui vous remonte à la figure d'un seul coup. Et c'est pas seulement un échec amoureux à digérer, c'est toutes les déceptions d'avant qui auraient pu être effacées si cette histoire avait été votre histoire de rêve.
Ah oui, mais ça je le pense. Quand vous me dites ça, je le réalise vraiment, oui. Oui.
Maintenant,
ça
aurait
effacé, oui.
La bonne nouvelle, c'est que rien ne dit que la vie ne mettra pas quelqu'un d'autre sur votre chemin qui serait bon.
J'en ai pas envie. Hein.
Non, parce que pour l'instant, c'est un peu sensible.
Mais ça fait quand même 3 ans. Hein.
Oui, mais vous n'avez peut-être pas travaillé sur le bon axe. Là, vous êtes peut-être en train de comprendre quelque chose.
Oui, effectivement. Je n'ai peut-être pas travaillé sur le bon axe. Mais enfin, 3 ans, je trouve que ça commence... Ça fait bientôt 3 ans, ça fera 3 ans cet été. Et je trouve que ça fait quand même beaucoup, quoi.
Eh bien, raison de plus pour vous autoriser à passer à autre chose.
Ben, à 70 ans, vous rendez compte, hein ?
Oui, mais vous ne les faites pas.
Puis ah non, mais c'est vrai. En plus, c'est vrai.
On s'en fiche. Les chiffres, ça change tout le temps. À quoi ça sert ? On s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur.
Ah non, mais oui, c'est vrai, dans le cœur. Je suis quelqu'un de jeune, de moderne.
Enfin, ben bon, voilà.
N'empêche que, quoi. Ça m'a fait un choc. Et puis je me dis, mais maintenant, moi, ma vie, pour moi, elle est finie, quoi.
Non, bien sûr que non.
Vous dites pas, oui, moi, je me dis, maintenant, je vais chercher la maison de retraite.
Oh, attendez, Mireille. Chaque jour, avec l'énergie que vous avez, ça, ils ne voudront pas de vous dans une maison de retraite. Ils vous diront, revenez dans 20 ans.
Ils vont dire que je suis trop jeune.
Revenez dans 20 ans, ils vous diront, vous allez voir.
Mais vous savez, je vais vous dire là, je rigole et tout. Mais si vous saviez les jours que je passe,
mais je sais bien, j'entends bien.
Devant la télé,
je sais bien.
Voilà, mais parce que c'est vrai que quand je parle, on dirait, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais je vous assure que j'ai du mal à me lever, j'ai du mal à me laver, j'ai du mal à sortir, tout est compliqué pour moi.
Mais oui, parce qu'une fois de plus, vous avez, dans cette histoire, il y a toutes les histoires en même temps.
Et donc, c'est vrai.
Et quand ça explose, c'est pas une histoire qui explose, c'est toute votre vie qui remonte. Et c'est pour ça que ça serait bien de travailler là-dessus, pour que si un jour vous rencontrez quelqu'un, ce soit pas un pansement. Ce ne sera pas quelqu'un qui sera là pour effacer ce qui s'est passé avant,
non,
mais ça
voyez,
fera
moi,
autre
ce
chose.
Que j'aimerais, si vous voulez, à la limite, rencontrer quelqu'un qui est un peu comme moi, vous voyez, pour aller boire un café, aller danser, mais amicalement, vous voyez, voilà.
Après, une amitié complice, quoi.
Voilà, une amitié, voilà, une amitié complice sans plus, quoi, voilà. Oui, ça, c'est vrai. Ça, j'aimerais bien, voilà. Bah, parce que j'ai quand même deux amis au bout de trois ans, ça fait cinq ans que je suis ici. Bon, je me suis fait deux amis, mais elles sont mariées, elles ont leur vie, enfin, vous voyez. Et moi, j'ai mon chat.
Comment il s'appelle, votre chat?
Alors, très original, Mimine.
Oh, bah oui, Mimine, c'est pas courant du tout.
Ah ouais, vous voyez. Remarquez,
je vais vous faire une confidence, le mien s'appelle Tom, c'est pas beaucoup mieux.
Ah oh bah si, c'est quand même plus original. Oh. Mais Mimine, bon, vous voyez, c'est pas... Enfin bon, mais c'est vrai, je vais réfléchir à ce que vous m'avez dit.
Oui. Et avec cette belle énergie que vous n'avez pas envie de faire du théâtre, de faire des...
Mais vous savez qu'on m'a toujours dit que...
Mais oui, je vous verrais bien sur scène, moi. En plus, ça vide la tête, ça fait du bien.
Mais c'est vrai qu'on m'a toujours dit ça. Plusieurs personnes ont dit, mais moi, le théâtre, je le faisais en classe.
Oui, j'imagine, j'aurais bien voulu être une de vos élèves. Et alors...
Écoutez, honnêtement, j'espère, et je pense pas qu'elle se soit ennuyée, mais je travaillais beaucoup, parce que je voudrais pas avoir l'air de faire... vous savez, j'étais quand même très carrée dans mon boulot, hein, ouf.
J'imagine.
Mais seulement, ça me fatiguait beaucoup. Parce qu'il fallait que j'ai l'air cool, alors qu'intérieurement, je le suis pas du tout, quoi.
Faites-moi plaisir, Mireille. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Dites-moi une phrase en anglais avec votre bel accent du Sud. Ça doit être tellement plus chantant.
Well, bye-bye. See you later.
C'est mignon. J'adore votre accent.
See you later.
J'adore votre accent.
Eh bien, écoutez, merci. Je vais réfléchir à tout ce que vous m'avez dit. Mais ça, j'ai pas... Mais c'est vrai que j'ai l'impression... Quand je vous dis c'est un tsunami, quoi.
Mais oui, parce que c'est ce qu'on vient de se dire. C'est pas une histoire qui vous expose à la figure, c'est tout le reste qu'elle prend avec dans ses filets.
Vous savez, quand je dis, j'ai l'impression que je suis traumatisée. Est-ce que j'exagère ou non?
Mais non, c'est à partir du moment où vous le vivez comme un traumatisme, il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. C'est, si vous le vivez comme un traumatisme, c'est que c'en est un.
Ben, c'est-à-dire que j'ai vécu plusieurs traumatismes les uns derrière les autres.
Voilà. Et que celui-là, exactement comme un tremblement sur une faille, un tremblement de terre sur une faille, bah ça ouvre la faille beaucoup plus profondément.
Et ça a été, je crois que ça a été le comment vous dire, la chose de trop, quoi, on va dire. Mais vous savez, puis j'ai perdu complètement confiance en moi, parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai jamais fait d'espagnol. Encore pareil, parce qu'on m'a dit, fais de l'italien, c'est plus facile. Alors là, franchement, bon, c'est pas vrai. Hein, mais j'ai toujours été attirée par l'espagnol. Eh bien, j'ai pas fait d'espagnol. Et quand j'étais en quatrième, et là, je voulais m'inscrire, il y a la fac des vieux, là. Je voulais m'inscrire, puis j'ai dit, oh, mais peut-être j'y arriverai pas.
Et oui, forcément, on en revient toujours à l'estime de soi.
Et je me dis, mais après, si j'arrive pas, ils vont dire, oh là là, celle-là, elle était prof et tout. Pourtant, j'ai fait un parcours quand même, on va dire, bon, quand même pas mal. Enfin, un parcours de prof normal, quoi, je veux dire. J'ai rien fait d'extravagant, hein. Mais enfin, ça se passait bien et j'étais heureuse. Et puis, mes inspections se passaient très bien. Bon, donc, je veux dire, vous savez, je m'occupais que de mon boulot, de mes élèves. Et après, je partais chez moi m'occuper de mes gosses, hein. Mais là, je me suis dit, l'espagnol, j'ai toujours eu envie d'apprendre l'espagnol, eh bien, j'y vais pas parce que j'ai peur de pas y arriver.
Mais c'est bien que vous prenez conscience de beaucoup de choses, j'ai l'impression, d'un seul coup. Il y a peut-être des trucs qui vont... Vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Oubliez les peurs, vous concentrez sur les envies, vous concentrez sur le positif.
Oui, et c'est comme la danse. Moi, j'étais une fan de rock, hein. De rock, de zouk, de. Enfin bon. Et après, je vais danser. Moi, je vais danser l'accordéon. Moi, c'est pas mon truc. Et puis, je sais pas faire les danses de salon. Alors, j'y vais pas, de peur de pas savoir.
Peur du jugement.
Je pense, oui. Parce que j'ai toujours été dans une famille où il fallait avoir l'air d'être bien.
Il faut être parfait. Oui, d'ailleurs, vous parliez de la vitrine tout à l'heure. Vous me disiez, non, mais à l'extérieur, moi, quand on me voit, on ne voit pas que je vais mal.
Ah non, mais c'est vrai, vous me rencontreriez, vous imagineriez pas à quel point je suis effondrée.
Oui, c'est ça. Vous
je le cache.
Vous ne vous autorisez pas à ce que ça se voit.
Exactement.
Eh oui, mais ça, c'est presque une double peine.
C'est... Oui, mais après, vous rencontrez des gens, les gens ont leurs problèmes, vous n'allez pas leur raconter votre vie en vous effondrant.
Non, mais il ne s'agit pas forcément de s'effondrer, mais on a aussi le droit d'aller mal. À un moment donné, il ne faut pas s'éterniser là-dedans. Mais là, je crois que c'est important. Vous avez compris quelque chose ce soir, j'espère.
Ah oui, c'est vrai. Ah, tout à fait, Sabine. Tout à fait.
Et que c'est
et
pas...
je vous remercie beaucoup.
Ouais. Avec plaisir, le problème. Vous savez, quelquefois, simplement le fait de discuter avec quelqu'un, on prend le recul nécessaire pour arriver à comprendre soi-même des choses. Hier soir, j'avais une jeune femme, je ne sais pas si vous avez écouté, qui se demandait s'il fallait qu'elle reste avec son compagnon ou pas. Et en fait, elle ne se rendait pas compte que pendant toute la conversation, dans chaque phrase, il y avait déjà la réponse.
Mais vous l'avez dit.
Mais oui.
C'était
tellement flagrant, en fait. Mais quelquefois, on ne se rend pas compte soi-même. Mais je suis sûre, si elle réécoute l'émission, elle se rendra compte que la réponse, elle l'avait. Bien sûr
oui, vous lui avez dit, bien sûr que j'étais à l'écoute.
Pardon.
Je suis toujours à l'écoute.
Merci Mireille, c'est gentil.
Écoutez Sabine, je vous remercie beaucoup. Je vais réfléchir à ce que vous m'avez dit, mais c'est vrai que ça éclaire, ça met des, comment on va dire, des points sur, comment dirais-je, parce qu'en même temps, j'ai l'impression de, comment vous dire, j'ai l'impression de d'être assez réaliste, enfin, de comprendre un peu les choses, quoi.
Bien sûr. J'entends bien ça,
mais entre intellectualiser les choses et puis après les vivre, c'est autre chose.
C'est pas tellement les vivre, on comprend certaines choses intellectuellement, il faut les comprendre émotionnellement.
Voilà, émotionnellement, voilà. C'était ce que je voulais dire en disant les vivre, voilà, émotionnellement.
Et là,
fait quand même un grand pas. Hein.
Donc, premier travail. Bien considérer que lui, finalement, bon, on s'en fiche, c'est terminé.
Ah non, mais ça, c'est la vérité. Alors là, c'est sûr.
Deuxième travail, bien vous rendre compte que la faille, elle est plus profonde et que ce tremblement de terre-là a fait remonter tout ce qu'il y avait dans le fond.
Ben oui.
Mais ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant que c'est remonté, ça va pouvoir sortir.
Oui, oui.
Et une fois que c'est sorti, vous autorisez à être heureuse, à être vous, à être bien et à oser faire ce que vous voulez. On s'en fiche du jugement des autres. Et si vous, dansez mal, si vous chantez mal, si vous faites mal du théâtre, mais que ça vous plaît, eh bien on s'en fiche, c'est bien. L'essentiel, c'est que ça vous plaise.
Ben oui. Mais le théâtre, on me l'a souvent conseillé. Hein.
Ah ben, je vous verrai bien, je crois que vous avez une personnalité à ça. Hein.
Ben écoutez, ben, j'en ai jamais fait. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on m'a plusieurs fois, hein, des personnes différentes, on m'a dit, mais on te verrait bien faire du théâtre.
Alors quand je parle de théâtre, il y a aussi ce qu'on appelle les cours d'impro théâtrale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de texte, on vous donne un thème et vous lâchez sur scène comme ça.
Oui,
c'est très amusant à faire ça. C'est la meilleure école pour lâcher prise.
Ah mais il faut se renseigner où pour ça?
Oh ben vous demandez à la mairie, vous regardez sur internet cours de théâtre, cours d'impro théâtral.
Impro théâtral, why not?
Ah, Amandine me dit, quelqu'un lui dit aussi qu'il y a les centres culturels qui proposent ça.
Ah d'accord.
Dans chaque ville, il y a des activités comme ça et vous pouvez vous renseigner sur les cours de théâtre. C'est très en vogue en ce moment et la majorité des théâtres proposent des cours de théâtre et des cours d'impro théâtral. Enfin, des cours, ce sont plutôt des ateliers, des espaces d'impro encadrés par un professionnel et c'est toujours très très sympa. Croyez-en quelqu'un qui a joué une fourchette en colère il n'y a pas longtemps sur scène. Non, l'impro, c'est vraiment du n'importe quoi, mais c'est très très drôle.
Eh bien, écoutez, je vais suivre vos conseils, Sabine, et je vous remercie beaucoup de votre écoute.
Ben, je vous en prie. Et vous savez ce qui me ferait plaisir?
Ah, dites-moi.
C'est que dans quelques temps, vous me rappeliez pour me raconter un peu l'évolution de tout ça.
Je le ferai sans problème.
La prise de conscience, comment vous avez travaillé avec votre thérapeute?
Oui, parce que là, j'ai un thérapeute, je fais encore 80 km pour aller le voir.
Oui, mais ça les vaut. Si vous êtes bien avec lui,
vous
savez.
Oui, mais je n'ai pas pu m'habituer ici. Il y en a plein de thérapeutes, mais moi, mon thérapeute, c'est mon Dieu. Voilà.
Vous avez la chance d'en avoir un bon, gardez-le précieusement.
Ah oui, oh là là.
Parce que si vous écoutez l'émission, vous devez entendre le nombre de fois où les gens nous disent que ça ne marche pas, qu'ils ne sont pas bien.
Alors, il n'y a personne, il n'y a que lui. Hein. Bon, donc, c'est comme ça.
Donc, 80 km, ça les vaut largement.
Vous avez raison. Ah. Ben écoutez, merci beaucoup Sabine.
Merci à vous d'avoir amené ce joli sourire dans ce studio.
Et je vous rappellerai.
Ça me ferait très plaisir. Je vous embrasse très très fort, Mireille.
Moi aussi, je vous embrasse très fort et merci infiniment.
Passez une bonne nuit.
À vous aussi.
Au revoir, Mireille.
Au revoir.
Un grand, grand merci à Mireille, merci à Laetitia aussi, merci à Catherine d'être venue nous ouvrir leur cœur en toute sincérité et comme chaque soir, venir raconter des passages, des moments de vie. Vous le savez, l'expérience de chacun apprend aux autres, on apprend tous les uns des autres. L'émission se termine pour ce soir. Je vous retrouve demain soir à partir de 23h si vous le voulez bien. D'ici là, vous pouvez continuer à laisser des messages sur le 3921. Passez une bonne nuit. Je vous quitte avec cette citation qui m'a fait sourire ce matin. Quand la chance frappe à la porte, bien des gens ne font que se plaindre du bruit. Passez une bonne nuit. Dans un instant, je vous laisse en compagnie de l'émission Au cœur de l'histoire sur Europe 1.